Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant pour cette deuxième et dernière partie de la Grande Table. Procréation et fin de vie. Après 8 mois de consultation, on connaîtra demain les arbitrages du Comité national d'éthique en prévision de la révision de la loi de bioéthique. Début donc d'une semaine éthique avec notre invité aussi. Dans son nouvel essai « La philosophie devenue folle » qui paraît chez Grasset, Jean-François Bronstein revient sur 3 débats qui polarisent l'opinion. Celui du genre, celui de relations homme-animal et celui de la fin de vie. Au cœur de ces 3 disciplines, les outre-Atlantique, les gender studies, les animal studies et la bioéthique, fondée par des grands noms de la pensée, comme celui de John Monnet, celui de Judith Butler, Peter Singer, Donna Haraway. L'identité de genre est-elle distincte de l'identité sexuelle? Les animaux sont-ils des êtres sensibles? Doit-on légaliser l'euthanasie? Autant de questions qui sont au cœur de nos débats de société depuis quelques années. Pour ce professeur de philosophie à Paris 1, déjà auteur de la philosophie de la médecine d'Auguste Comte, le bon sens et la modernité voudraient qu'on efface les limites. Or, il convient, selon lui, au contraire, de les affronter, ces limites, parce que sans limites, plus d'humanité. Bonjour à vous, Jean-François Bronstein.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Butler, Singer, Haraway, autant d'icônes progressistes qui veulent faire bouger les lignes et prônent le retour de l'ouverture de ces questions de société. Vous, en prônant le retour des limites, j'y arrive, est-ce que vous vous inscrivez ouvertement dans un courant conservateur de ou du « c'était mieux avant, il ne faut pas que les choses bougent, il faut figer les limites et les règles telles qu'elles étaient pour qu'on sache se retrouver, avoir nos repères et que ça n'évolue pas ».
Pas du tout, bien sûr. Moi, si je suis allé m'intéresser à ces questions, c'est parce que je suis simplement curieux en tant que philosophe. C'est des débats qui sont essentiels pour n'importe quel citoyen, n'importe quel fils, n'importe quel père. Et donc, j'étais déçu par la manière dont ces débats autour du genre, autour des animaux, autour de l'euthanasie étaient menés. Soit dans le grand public, parce que effectivement tout le monde avait l'air d'être entièrement d'accord, c'était l'unanimisme à peu près absolu. Soit dans le cadre de ces studies dont vous parlez, animal studies, gender studies ou bioéthique, parce qu'il me semblait que les débats n'étaient pas vraiment étayés, si je puis dire. Donc ce que je fais en général, je suis universitaire, donc je suis allé lire les textes. Donc je suis allé lire les textes, le plus possible de textes de ces fondateurs. C'est comme vous le dites, ce sont des personnages tout à fait importants. Ce ne sont pas du tout des hurluberlus, des excités, des extrémistes. Ce sont les gens qui ont fondé la bioéthique, les gens qui ont fondé les gender studies, les gens qui ont fondé les animal studies. Et je dois dire que quand je suis revenu de cette expédition dans ce pays des gender studies, animal et bioéthique, j'ai été assez surpris. C'est-à-dire que mon résultat, ma pêche, si je puis dire, était que beaucoup de propositions étaient au mieux ridicules. Bon, donc il y a des aspects assez drôles dans le livre. Au pire, plus grave, absurde et quelquefois même choquante. Et donc c'est ça qui fait que j'ai voulu écrire ce livre. Je suis un petit peu sorti de ma réserve universitaire. Je l'ai appelé d'une manière, un titre un petit peu provocateur, « La philosophie devenue folle ». C'est pas que tous les philosophes sont fous, loin de là. Je cite dans mon livre beaucoup de philosophes justement peu connus, moins connus, disciples de Wittgenstein ou autres, qui ne partagent pas ce point de vue. Mais il m'a semblé utile de prévenir d'une certaine manière, de donner les éléments du débat, parce que, à mon avis, les idées ont de l'importance. Les idées sont efficaces et on ne peut pas, je prends un exemple parmi d'autres, discuter à l'infini dans les cours de bioéthique sur la question de savoir à quel point l'infanticide est autorisé ou non, ça pervertit d'une certaine manière le jugement moral. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, je suis pas du tout partisan de limites figées, etc. Je pense qu'au contraire, les limites, les frontières, ce sont des choses que l'on peut transgresser, dépasser, on se construit contre les frontières. Bon, à la fin du livre, je cite Foucault, qui n'est pas particulièrement un auteur réactionnaire, qui explique qu'effectivement, pour qu'il y ait de la transgression, il faut qu'il y ait de la limite. Pour qu'il y ait du courage, il faut qu'il y ait des limites à transgresser.
Foucault, qui est aussi une référence pour un certain nombre de ses penseurs, et notamment pour l'américaine Judith Butler, ou encore pour l'australien Peter Singer, que vous citez abondamment dans cet ouvrage essai, Jean-François Bronstein. Vous le disiez, ils sont tous très bien implantés dans le monde universitaire. Ce sont des penseurs qui ont fait école depuis, des mouvements de citoyens ont aussi rejoint leur thèse, alimenté en tout cas leur discours et leur militantisme à partir de leur théorie. Est-ce qu'aujourd'hui les lignes du politiquement correct sont en train de bouger très franchement?
Je ne sais pas moi. je n'ai pas de thèse générale sur le politiquement correct. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement à quelle position conduisent un certain nombre de bons sentiments, si l'on veut. Je suis tout à fait d'accord que les animaux, c'est une vraie question aujourd'hui, et tout le monde en parle, et je préfère lire Coetzee, par exemple, le dernier livre de Coetzee, qui est un livre superbe, L'abattoir de verre, pour savoir ce qu'il faut faire des animaux, plutôt que Singer, qui propose de dire qu'au fond, nous, les humains et les animaux, sont les mêmes. Donc je pense que la question, c'est pas vraiment il y a des mouvements issus de cela, mais ce sont les conséquences.
Ouais, vous le citez, il vous a quand même fallu à vous une bonne dose de politiquement incorrect pour ouvrir cette réflexion et écrire ce livre.
Bah, j'essaie d'être un esprit libre, donc moi, c'est pas parce qu'on me dit Butler, Haraway, autre, c'est bien, je vais lire et je lis et je raconte dans ce livre ce qui se passe. Et il me semble que partie de vraies questions, c'est-à-dire les questions effectivement sur l'identité sexuelle, des questions sur les rapports de l'homme avec les animaux, la question de masse qui est l'euthanasie, parce que la médecine a progressé, etc. Il me semble que ces auteurs font preuve d'un petit peu, je dirais, de légèreté ou d'hyper-rationalisme. C'est-à-dire quand effectivement quelqu'un comme Singer ou Harris dans une fameuse loterie de la survie propose que pour sauver deux malades, il vaut mieux tuer un bien portant et c'est très sérieux. Je me dis que là, il y a quelque chose qui ne va pas. L'hyper-rationalité conduit à des postures et des raisonnements qui me semblent effectivement choquants.
Les ravages des bons sentiments, c'est l'éditorialiste Éric Zemmour qui salue votre plongée au cœur nucléaire du politiquement correct ce week-end dans le Figaro contre ces bien-pensants qui n'ont que les mots droit à la bouche. Droit des femmes, droit des homosexuels, droit des animaux, droit à la mort dans la dignité, acquérir, conquérir de nouveaux droits en permanence sans se questionner aussi sur leur légitimité. Vous, ce que vous montrez bien, c'est que ces combats théoriques qui sonne bien sur le papier, quand il se frotte au réel, ça devient parfois franchement absurde. Donc vous avez mené tout ce travail de déconstruction autour de trois thèmes, celui du genre, celui du droit des animaux et celui de la relation entre le vivant et la mort. Qu'est-ce qui relie ces trois questions? Quelles remises en cause ont-elles connues ces dernières années, Jean-François Brandstein?
Alors effectivement, bon, que je sois lu par Éric Zemmour ne me pose pas problème, tout le monde peut me lire. Et justement, j'ai donné les bases du débat, et de ce point de vue-là, je pense que chacun peut se faire son avis. Pour ce qui est de ces trois questions, il me semble qu'il y a trois... Le point commun, c'est effectivement la question de l'effacement des limites et l'idée qu'on peut arriver dans un monde où tout est possible, où il n'y a rien qui résiste, il n'y a pas de réel qui résiste, il n'y a pas de symbolique. Bon, par exemple, dans le cas de... les questions sont un petit peu différentes, mais c'est quand même le même problème. À propos du genre, l'idée de ce que je décris, c'est une espèce d'introduction très politiquement incorrect au genre, c'est que le corps s'évapore d'une certaine manière en passant de Monet à Fausto Sterling, à Butler, etc. Il y a l'idée que le corps n'est pas pensable. Alors ce qui est assez étonnant de ce point de vue-là, c'est que, alors je parle de gnose à ce propos, la gnose qui est une hérésie chrétienne qui pense que le corps est mal, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser si possible. On voit qu'ici, ces penseurs dont je parle se rapprochent des penseurs transhumanistes qui pensent effectivement que le corps c'est de la viande et qu'il vaudrait mieux downloader notre conscience sur des ordinateurs. Et donc il y a vraiment un vrai mépris du corps. Je trouve que c'est d'autant plus bizarre, puisqu'on a parlé de Foucault, que Foucault a écrit un livre magistral, Naissance de la clinique, où il parle de ce qu'il appelle la pierre noire du corps. Le corps existe. Alors, ça ne veut pas dire, et là je ne suis pas du tout en train de dire que on est assigné à un sexe, etc. Ça veut dire qu'il faut jouer avec, ça veut dire qu'on a une anatomie et ensuite on en fait quelque chose. La culture, c'est effectivement de jouer autour de cela. Et donc on n'a pas attendu les auteurs dont je parle pour faire des expériences sur les limites de la sexualité. Bon, ça c'est par exemple le cas pour le corps. S'agissant des animaux, la question qui se pose, à mon avis, c'est que sous prétexte de défendre les animaux, on affirme que les animaux et les humains, c'est à peu près pareil. Et donc, il y a une espèce d'envahissement du monde animal par les règles du monde humain. Je cite quelques passages un petit peu hilarants, où l'on voit ces professeurs de Boston expliquer que les animaux se conduisent mal à l'égard de leurs aînés, qu'ils sont en train de se manger les uns les autres, que c'est pas une bonne chose, etc. Les animaux, c'est différent. Et moi, il me semble que je parle à ce propos de défense d'exceptionnalisme. On critique souvent la défense de l'exceptionnalisme humain. Il me semble qu'il faut aussi défendre l'exceptionnalisme animal. C'est-à-dire qu'il faut écouter, il faut regarder, il faut aimer, il faut admirer les animaux. et essayer de les protester, mais pas en disant que nous sommes, que les humains sont des, que les animaux sont des humains comme les autres, formule humoristique qui a été souvent employée, mais essayer au contraire de voir quelle est l'originalité des animaux, pourquoi les animaux sont différents et pourquoi nous, notre différence essentielle, c'est que justement nous protégeons les animaux. Bien sûr, tout le monde est darwinien, enfin, j'espère, hein, j'espère qu'on ne me traitera pas de créationniste. Nous sommes bien sûr des animaux d'un certain point de vue, mais d'un autre point de vue, nous ne sommes plus des animaux. Et donc, c'est ce genre de question qui m'intéresse, c'est-à-dire voir comment les limites bougent. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas les animaux ou l'animal, il y a toutes sortes d'animaux qui étudient l'éthologie, qui étudient les sciences, qui contemplent la littérature. Là, bon, j'étais très content d'avoir ce très beau tableau de Gilles Ayot en couverture de mon livre, que j'adore. Je ne suis pas du tout un ennemi des animaux, si je puis dire. Et je pense que les transformer en espèces d'humains plus ou moins déficients. Alors bon, il y a des conséquences qui sont abjectes quand Singer compare les animaux handicapés, c'est abject dans les deux sens, je dirais. C'est ne pas comprendre quelle est la vie des handicapés. Et il y a une philosophe.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait comme comparaison?
Pour lui, si effectivement on est les hommes et les animaux, c'est pareil. Donc, il s'étonne que certains humains qui n'ont pas les qualités habituelles, standards, la raison, la conscience, etc., soient mieux traités que des animaux qui, eux, sont conscients, ont des perspectives, ont éventuellement des comportements adaptés. Et donc, il propose, par exemple, c'est un cas très très central hein, dans la doctrine animalitaire, c'est l'idée des cas, ce qu'ils appellent les cas marginaux. Pourquoi devrait-on traiter mieux les humains handicapés que les animaux en pleine forme? Et la réponse sur laquelle Singer revient perpétuellement, même si quand ce n'est pas la question, à propos de son dernier livre notamment, c'est un cochon, c'est mieux qu'un enfant handicapé, donc il vaut mieux sauver le cochon que l'enfant handicapé. C'est-à-dire, ça a l'air d'être une blague, mais ce genre de propositions sont tenues dans des revues de pédiatrie. Là, je trouve qu'on touche un petit peu à la limite de ce qui est audible. Alors bon, de ce point de vue-là, effectivement, j'ai été choqué par ce genre de choses. Même chose pour la fameuse histoire de la zoophilie, bon, que je n'insisterai pas, c'est un peu scabreux, mais on va l'écouter,
justement, Peter Singer, philosophe australien, à l'origine du mouvement, pionnier du mouvement antispéciste, parler de la possibilité de relations sexuelles entre hommes et animaux, et de revenir sur ce terme de relations mutuellement satisfaisantes, écoutez dans cet entretien.
Pourquoi est-ce ainsi? Est-ce parce que nous essayons de préserver ce fossé entre les hommes et les animaux? Beaucoup semblent en avoir peur. Pourquoi? Est-ce à nouveau parce que nous voulons préserver ce fossé entre les humains et les animaux? L'idée que certaines personnes pourraient avoir des relations sexuelles avec les animaux pourrait menacer cette séparation que nous avons posée entre nous et les animaux, qui met les hommes sur un piédestal. Et ce que je dis, c'est qu'il y a clairement des formes de pratiques sexuelles qui sont de toute évidence cruelles pour les animaux. Mais vous pouvez penser à d'autres formes de relations sexuelles où les animaux sont libres d'aller et venir, où ils ne sont pas blessés et donc... Ils sont consentants? Oui, j'ai l'impression qu'ils sont consentants, dans l'hypothèse où les animaux peuvent consentir à quoi que ce soit. Donc y a-t-il vraiment un problème? Quel est le problème? Ça semble inconvenant, pas naturel, déviant, mais c'est aussi comme ça que certains voyaient les formes différentes de sexualité qui sont acceptées aujourd'hui.
C'est vrai, quel est le problème, Jean-François Bronstein?
Il n'y a aucun problème, comme je le dis dans mon livre. Bon, ce sont des pratiques qui existent, mais en général, on ne présente pas l'animal à sa famille le soir à dîner. C'est évidemment une pratique tout à fait transgressive qui existe, mais Singer ne voit pas cela du tout. Il voit ça en termes de quantité de plaisir. Et donc, si ces relations sont mutuellement satisfaisantes pour l'homme et l'animal, il ne voit aucun problème de ce point de vue-là. Il me semble, de mon point de vue, que l'humanité s'est construite sur cette différence homme-animal.
Cette dualité.
Cette dualité, aussi, ouais. C'est effectivement, avec la dualité masculin-féminin, avec la dualité homme-femme, c'est quelque chose qui conditionne notre pensée symbolique. Et donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, Singer cite un obscur auteur viennois. Bon, je vais aller regarder, effectivement, Otto Soika. Soika ne dit pas du tout que c'est quelque chose de normal. Et je pense que... c'est ça qui est fait... Bon, je vous dis, des expériences de zoophilie, des interventions, des installations de cet ordre existent dans l'art, mais c'est évidemment quelque chose d'extrêmement choquant. Et Singer est une sorte, comme dit d'ailleurs Slavoj Žižek, Singer est une sorte de Sade du quotidien. C'est quelque chose qui est effectivement très très étrange, mais c'est normal de son point de vue, puisque effectivement ce qui compte c'est la satisfaction, c'est la quantité de plaisir. pourquoi pas envisager cela.
Ce qu'il dit, c'est aussi que c'est ce qui nous distingue, nous les hommes des animaux, c'est justement notre capacité de choisir, d'où notre responsabilité morale. Pour lui, la considération de l'égalité entre hommes et animaux est aussi en train de vivre une véritable révolution, mais il en pose quand même des limites, des frontières entre l'homme et l'animal, Peter Singer.
C'est pas tout à fait évident, hein, parce que de son point de vue, c'est juste on est dans le monde darwinien et c'est juste des quantités de plaisir ou de souffrance qu'il faut éviter. Les humains et les animaux sont des êtres sentients, hein, c'est-à-dire des êtres sensibles. Mais on peut penser que l'homme, c'est pas juste un être sensible, c'est aussi un être créateur, imaginatif, intelligent et un être qui protège les animaux. Alors de ce point de vue, la Singer d'ailleurs est un petit peu timoré, si je puis dire, puisque celle que je préfère d'ailleurs parmi ses auteurs, Donna Haraway, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement humoristique, assez amusante. Elle, son idée, c'est vraiment de dépasser les barrières d'espèce. Il y a vraiment cette idée qu'il faut effondrer les barrières d'espèce et qu'ensuite, sans doute, tout le reste suivra. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que sa zoophilie est cosmique puisqu'elle veut se mêler aux abeilles, aux riz, aux éléments, etc. Et oui. Donc, je pense que, d'une certaine manière, elle va plus loin et elle tire les conséquences de ce que Singer n'ose pas toujours faire.
L'antispécisme, vous, Jean-François Brochstein, vous le considérez comment? Vous le voyez comme un nouvel humanisme? On a cette relation homme-animal aujourd'hui qui est en pleine redéfinition avec ce mouvement spéciste qui veut abolir aussi les privilèges d'une espèce au détriment des autres et qui repose cette question de l'égalité entre hommes et animaux. Vous pensez que ce débat-là, dans une actualité qui est aussi quand même marquée par des images assez chocs sur... Le sort qui est réservé aux animaux d'élevage vous pensez qu'il faut reposer cette question de quelle manière?
Il me semble que de ce point de vue-là, bien sûr que les images que l'on voit d'élevage que montrait le 214 ou autres sont des images tout à fait choquantes, mais à mon avis ce qu'il faut essayer de voir, c'est de reconnaître effectivement les animaux, d'être sensible à leurs différences. Et il me semble que si ce débat prend une telle importance aujourd'hui, c'est justement parce que nous ne voyons plus d'animaux. Nous, dans les villes, nous sommes dans des civilisations ultra-urbaines, et les seuls animaux que voient Singer ou Haraway, c'est leur chien, leur chat et la viande qu'ils ne mangent plus. Bon, de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une vraie question, et il s'agirait de rééduquer, de réapprendre à écouter, à voir les différences entre les hommes et les animaux. Quant au type de relation qu'on a avec eux, effectivement, par exemple, je pense que sur la question de la viande, cette idée de manger de la viande d'une manière standardisée est quelque chose de problématique. Il y a un très beau texte de Claude Lévi-Strauss sur à l'occasion des vaches folles où il dit « Bon, peut-être qu'on mangera la viande comme on le faisait auparavant dans des sortes de cérémonies, ce sera des repas de fête, ce sera des repas très particuliers où d'une certaine manière on remercierait l'animal de ce qu'il nous donne. » Moi, je trouve que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait aller plutôt que du côté d'une interdiction radicale de la consommation de viande. Bon, je montre juste en plus que les choses sont pas si simples que ça, parce que où placer la limite?
C'est la question. Voilà. Donc, quelle est la limite ici? Comment la rétablir pour éventuellement la transgresser? Vous la placez où, la limite, sur cette question-là?
C'est vrai que c'est une question difficile, parce que on voit que, par exemple, Singer ne cesse de faire bouger la limite. Il ne sait pas si les huîtres, par exemple, elles sont du bon côté ou du mauvais côté de la limite. Moi, il me semble que ça dépend de chacun. Bon, ça dépend des cultures propres de chacun. Ça dépend des traditions culinaires, des traditions historiques, des traditions de chasse. C'est pas pareil de manger un lapin qu'on a chassé que de manger un lapin industriel, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas... Je ne veux pas placer moi-même la limite. Il me semble que les limites évoluent. Effectivement, avant, personne ne se posait la question de manger ou non de la viande. Maintenant, c'est une question que tout le monde, y compris moi, se pose. On se pose cette question. Je dirais que la limite, ce serait évidemment d'arrêter les cruautés à l'égard des animaux. Un élevage... Bon, je rejoins évidemment ce que dit Finkielkraut dans son dernier livre sur des animaux et des hommes. C'est la même idée. Et si on va au bout de la libération animale, en revanche, il n'y aura plus d'animaux, hein, puisqu'ils ne sont plus élevés et les animaux domestiques disparaîtront très vite.
Genre, animal, mort, deux erreurs communes, Jean-François Brochstein, à vos yeux, chez ces théoriciens. La première, ne tenir aucun compte de la réalité et de se livrer à des raisonnements purement rationnels et utilitaristes. L'autre erreur commune à tous ces auteurs consiste à vouloir toujours effacer la notion de limite, à croire naïvement qu'il n'y a pas d'impossible. Revenons-en, si vous le voulez bien, à la question du genre qui mérite, elle aussi, d'être explorée. Et prenons les premières théories, celle de John Monnet, que vous étudiez étudié, le premier à faire la distinction entre le genre et le sexe biologique. Pour lui, l'identité se fixe dans les premières années de la vie. Comment est-ce qu'il va redéfinir, lui, les appartenances ?
Pour Monet, c'est d'une certaine manière, c'est un représentant typique de son époque, c'est un behavioriste. Donc il pense que c'est la culture qui fabrique l'homme en entier. C'est un disciple de Watson, de Skinner, de gens comme ça. Et donc, selon lui, là, le genre, c'est comme la langue maternelle. Ça se fixe à un certain âge, mais si on intervient avant cet âge, on peut effectivement faire en sorte que tel genre soit inculqué à X personnes qui peut être de tel ou tel sexe. Bon, c'est le fameux cas David Reimer, dont je reviens pas là-dessus puisque c'est assez connu aujourd'hui. Mais il y a vraiment l'idée que la culture, alors il dit quelque part, je suis comme une sorte de Pygmalion, je peux faire avec X un homme ou une femme. C'est ce que disait Watson aussi, je peux faire avec X un ouvrier ou un professeur à Harvard, etc. Et donc il y a l'idée que la culture est tout à fait essentielle et que c'est la biologie est quelque chose de relativement accessoire. Donc de ce point de vue-là, alors je cite une aberration, si je veux, si l'on peut dire, de Monet, bon, qui est l'idée, il découvre une sorte de maladie qu'il invente en partie, qu'il ampute aux manies, c'est-à-dire l'idée que l'on pourrait se faire couper un bras en bon état si on pense qu'il n'appartient pas à son corps. Donc, je cite ça pas du tout pour rendre Monet encore plus délirant qu'il n'est. C'est juste que, effectivement, selon lui, c'est la conscience qui compte. Le corps, c'est accessoire. On fait tout ce qu'on veut du corps. Je pense que de ce point de vue-là, le problème vient aussi d'une certaine médecine qui prétend pouvoir transformer tout à volonté. Et de, bon, alors on rejoint là aussi les questions du transhumanisme, du post-humanisme.
Tout transformer et tout choisir. Peut-être quand même le cas, la tragédie, Reimer, vous pouvez revenir dessus, parce que je suis pas sûre que, contrairement à ce que vous dites, tout le monde la connaît. Donc ce sont deux jumeaux qui vont grandir ensemble, sauf qu'à l'un des deux jumeaux, David, qui...
Oui, je peux... Enfin, l'histoire est relativement connue des gens qui s'intéressent à ces questions. Effectivement, Monet était déjà connu comme un théoricien, effectivement, de l'intersexualité. On disait hermaphrodisme à l'époque. Donc, les parents d'un jeune enfant qui a été blessé, on a opéré d'un phimosis qui a eu son sexe très largement coupé, viennent le voir et lui disent qu'est-ce qu'on peut faire. Monet leur dit, bon, on va enlever ce qui reste et on va l'éduquer en fils, ça sera une fille. Et il ne leur laisse pas beaucoup de temps puisque, effectivement, il y a un délai, il faut le faire dans les 2 ans, etc. Donc, les parents se lancent là-dedans. Monet suivra cet enfant pendant des années et il essaie, alors, ce qui est très bien pour lui, c'est qu'effectivement, il a un frère jumeau. Donc, ça permet d'avoir un témoin d'une certaine manière. C'est le cas idéal, si je puis dire, pour un scientifique comme Monet. Et il essaie de faire en sorte que ce gamin, David, devienne une fille, Joanne, hein, comme il l'appelle. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout comme ça. C'est une catastrophe. L'enfant refuse d'aller chez Monet, bon, pour diverses raisons aussi, parce que les consultations de Monet sont assez spéciales. Refuse ensuite de prendre son traitement qui devait le féminiser. Refuse de se faire opérer. Et à 13 ans, quand il sent que l'opération approche. Et ensuite, bon, il va essayer de devenir un homme en subissant une phalloplastie, en changeant de nom, en reprenant le nom David, etc. Le problème, c'est que Monet, il y a deux problèmes. Il y a un problème, je dirais, éthique et un problème scientifique. Le problème éthique, c'est que pendant des années, Monet a contraint ce gamin qui ne voulait pas changer de sexe, qui ne voulait pas devenir un garçon, à entrer dans ce protocole. Et l'autre problème, c'est que ce cas, qui est le cas essentiel selon Monet, est un cas dont il sait qu'il n'a pas marché au moment où il publie ses livres et dont il tait l'échec. Donc, c'est-à-dire que c'est, du point de vue scientifique, c'est une catastrophe et même beaucoup de gens favorables aux théories du genre disent que là, Monet a complètement perdu les pédales, si je puis dire.
Mais ça devient très idéologique aussi pour lui. Par la suite, la biologiste américaine Anne Fausto-Sterling va affirmer qu'il n'existe non pas deux, mais une infinité de sexes. Puis Judith Butler, qui va aller plus loin encore, pour l'auteur de Troubles dans le genre, influencé par Foucault, prof à Berkeley, le sexe et le corps n'existent pas. Pour elle, seuls existent des consciences et non des corps. Ces derniers sont le résultat, racontez-vous, des desiderata des consciences, en tentant de traduire donc la prose de Judith Butler. Nouvel idéal aujourd'hui, celui de la fluidité des genres, qui ne nécessite plus de matérialiser le changement. Je suis ce que je ressens être et ce que je déclare être. Et pour l'exemple, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Arrêt sur image, tournée au moment de la marche des fiertés cette année. Daniel Schneiderman présente à ce moment-là de l'émission, un homme comme un homme qui s'en offusque. Lui, c'est Arnaud Gauthier-Favas, administrateur de l'inter-LGBT, et qui lui demande... Mais...
Quatre invités, quatre hommes.
Sexiste et un homme, monsieur.
Vous n'êtes pas un homme,
pardon. Ah non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme.
Votre apparence?
Ah bon? Ah bah, il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir.
Alors, expliquez-moi.
Non, non, je suis non-binaire, donc ni masculin, ni féminin, comment et je refuse qu'on me genre comme un homme.
Comment vous définissez-vous?
Comme non-binaire.
Comme non-binaire?
Oui.
D'accord, mais ni masculin ni féminin.
C'est ça.
Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau.
Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a quatre hommes sur le plateau. Non, c'est le mégenré et c'est pas très agréable.
Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé.
Je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement il y a un manque de genre féminin de femmes sur le plateau, mais on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi.
Aussi.
Non, notre collectif Stop Hoping Washing, d'ailleurs, est mené par...
Il va nous dire qu'il n'est pas blanc.
Bah non.
C'est-à-dire?
Bah non, je suis à moitié libanais.
D'accord. Mais.
Bon. Non, mais c'est intéressant
qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser.
Alors, c'est intéressant dans cette séquence de nous interroger effectivement tous sur nos propres stéréotypes, de comprendre aussi que cette personne peut aussi avoir choisi quelle était son identité, comment il se vivait, se ressentait. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand dans nos choix, on attend des autres qu'ils voient de nous ce qu'on considère ou ce qu'on ressent être.
Je n'aurais pas osé citer cet échange si vous ne l'aviez fait, parce que c'est évidemment quelque chose qui est très drôle d'une certaine manière et très triste aussi. Il me semble que effectivement, on voit très bien dans l'intervention de Monsieur Gauthier-Favas que lui-même a besoin du regard des autres pour exister. Et c'est ça le problème du genre, d'un genre purement déclaratif, c'est qu'il faut des indices pour savoir si on est un homme ou une femme. Donc il faut changer les portes des toilettes aux États-Unis, il faut se poser la question de l'état civil, etc. Et il faut que le regard des autres confirme ce choix. Alors moi, d'une certaine manière, ça me dérange pas du tout que Monsieur Gauthier-Favas soit non-binaire. Au contraire, moi je trouve que c'est amusant, c'est un sentiment assez bizarre. Mais en revanche, qu'il me demande de partager son sentiment, là c'est quelque chose qui pose problème, parce que tout extérieurement, il n'a pas changé. C'est un homme barbu, chauve, avec une voix d'homme, habillé en homme, etc. Donc, dans le langage commun, dans le langage que nous avons tous, hein, il s'agit aussi d'une communication entre tous. Et donc, de ce point de vue, qu'il nous dise, et il est quand même assez acrimonieux à l'égard de Schneiderman, il dit, quand même, vous mégenrez, etc. Il est assez agressif. D'une certaine manière, qu'il ait ce sentiment, lui, je veux bien, mais qu'il ne me demande pas d'entrer dans son propre raisonnement. Alors je dirais à la rigueur, moi je suis un grand garçon, ça m'amuse plutôt, etc. Ça me fait sourire. Enfin, j'ai comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup ri en voyant cette vidéo. En revanche, si ce monsieur explique à un gamin de 6 ans cela, ça va poser des problèmes du côté, je dirais, de l'intelligibilité. C'est-à-dire que logiquement, quand on a telle et telle caractéristique, telle apparence, on a aussi plus ou moins le sexe qui va avec. Ou alors, on peut choisir effectivement d'avoir des... Il y a quelques cas de transgenre qui, effectivement, jouent sur cette ambiguïté. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On ne peut pas être un monsieur, dire Daniel Schneiderman, je ne suis pas un homme monsieur, parce que Schneiderman n'est peut-être lui aussi pas un homme, hein, qui le sait. Donc, c'est une vraie question. Et je trouve que, alors... C'est un côté ridicule, c'est extrémiste.
Oui, mais ça pose une question qui est quand même intéressante, parce que, et vous le rappelez aussi, il y a eu un moment où les limites, peut-être trop rigides, sur cette question de la dualité entre le masculin et le féminin, a pu provoquer chez certaines personnes des états de souffrance pour les hermaphrodites, pour les transsexuels, la non-reconnaissance aussi de ces identités floues ou différentes entre l'apparence et le ressenti, a pu provoquer aussi des souffrances dans la société. Donc, à partir de quand peut-on ouvrir, là encore, la frontière ?
C'est une vraie question. Je ne nie pas qu'il y ait eu des souffrances de cet ordre, mais il se trouve que désormais, il y a d'autres souffrances d'un autre ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, notamment aux États-Unis, où cette question est extrêmement médiatisée dans toutes les émissions de télé-réalité, etc., on voit qu'il y a plein de gamins ou d'adolescents, il y a plusieurs études récentes qui montrent que les enfants ne savent plus quel est le genre, puisqu'on leur dit... votre corps n'est pas un indice nécessairement. Votre corps ne signifie rien. Bon, les prochaines les règles de l'éducation primaire en 2019 en Écosse, c'est votre genre, c'est ce que vous choisissez, expliquons aux enfants du primaire. C'est pas si simple que ça. Vous avez aussi un corps qui vous indique ceci ou cela et vous choisissez. Donc, je crois que l'idée, moi, ce qui me gêne, c'est que l'idée que au fond, c'est tout simple, c'est pas simple du tout. Et on le voit d'ailleurs dans le cas de ce monsieur que vous avez cité, c'est son identité, elle aussi, doit être très complexe. Hein. C'est très compliqué de vivre avec une identité de cet ordre. Moi, il me semble que l'éducation, et c'est la question, c'est-à-dire que si on lit des bouquins sur ce sujet, si on lit tous les livres sur les intersexes, etc., on comprend bien ce dont il s'agit et on peut très bien trouver des solutions. Par exemple, plutôt qu'un état civil neutre, parce qu'il y a quelques rares hermaphrodites à la naissance vraie, on pourrait très bien reporter la date d'établissement de l'état civil. Il y a toutes sortes de solutions. Les médecins... Moi, ce qui me semble curieux, c'est qu'effectivement, on n'écoute pas, s'agissant des animaux, s'agissant du genre, s'agissant de la mort, les gens qui s'en occupent, c'est-à-dire les psychiatres, les psychanalystes dans un cas, les gens qui s'occupent des animaux et les juristes dans le cas des animaux, et les médecins dans le cas de l'euthanasie. Il me semble que c'est une vraie question, puisque... Bien sûr, tous les médecins, me semble-t-il, ont pratiqué un jour ou l'autre l'euthanasie, mais l'idée de légalisation de l'euthanasie, c'est quelque chose sur lequel peu de médecins sont d'accord, parce que ce sont toujours des cas particuliers, me semble.
La dualité a, elle aussi, ses limites, et vous évoquez et insistez dans cet essai, Jean-François Bronstein, sur le besoin de transgression de cet ensemble de normes trop rigides, mais pour qu'il y ait transgression, faut-il encore qu'il y ait effectivement limites. Better than well, mieux que bien. Et si derrière cette philosophie du bien-être se profilait un sommes-nous en train de consentir à notre propre disparition pour rejoindre la prophétie de Houellebecq dans les particules élémentaires que vous citez. Est-ce que pour vous, Jean-François Bronstein, aujourd'hui les utopies transhumanistes sont en train de contaminer la philosophie ?
Je pense qu'il y a, puisqu'effectivement la question aujourd'hui c'est transhumanisme et posthumanisme, il me semble qu'il faut vraiment distinguer les deux aspects. C'est-à-dire que le transhumanisme, c'est au fond sous diverses formes, plus ou moins utopiques, la poursuite du rêve d'un progrès indéfini de l'humanité. Et de ce point de vue-là, il y a des limites, on les repousse et on se transforme, etc. En revanche, le risque, si je puis dire, c'est de tomber dans ce qu'on pourrait strictement appeler le post-humanisme, c'est-à-dire c'en est fini de l'humanité, parce que l'humanité est imparfaite, parce qu'elle est sexuée, parce que les corps sont malades, vieillissent, etc. Et il me semble qu'il y a une vraie tentation de dire, on en parlait tout à l'heure, de downloader les consciences. Bon, on voit les vieux travaux déjà de Günther Anders qui dit que l'homme a honte d'être juste né alors qu'il aurait pu être fabriqué comme une machine parfaite. Et donc on trouve cette idée chez certains. Et Houellebecq, je trouve, décrit très bien ce passage. Pour ma part, il me semble qu'on peut continuer l'aventure humaine, comme on dit. Alors, ça fait un peu rétro, ça fait un peu old school, mais bon, à la fin, je finis sur cette devise de Charles Quint, plus ultra. Moi, c'est à peu près ce que j'espère. J'espère plutôt continuer cette aventure, plutôt que dire stop, on arrête, c'est fini, on n'est pas satisfait.
Et pourquoi la philosophie est en train de perdre la raison pour vous, et pour en revenir au titre de l'essai?
Bon, alors, soyons clairs, je pense que là, ce sont, alors, beaucoup de mes amis philosophes m'ont dit, mais non, ce sont des idéologues, c'est pas des vrais philosophes, etc. Moi, je montre qu'il y a un débat, très, très intense de ce point de vue-là. En général, on ne connaît que les auteurs dont on a parlé, mais il y a d'autres auteurs absolument fabuleux, Cora Diamond, Anne MacLean, Raymond Gaïta, que je cite, qui sont des auteurs justement attentifs à la diversité des formes de vie, au fait que les choses ne sont pas si simples, au fait qu'il faut que la philosophie essaie de retracer de manière pointue, détaillée, le monde qui nous entoure. Moi, je suis curieux, justement, alors à la rigueur, le principal défaut que je veux... La principale critique que je ferai à ces auteurs, c'est l'absence de curiosité. Pour eux, tout est simple. Il y a l'animal, il y a l'homme, il y a le genre, etc. Non, les choses sont beaucoup plus complexes, me semble-t-il.
Merci beaucoup à vous, Jean-François Bronstein. La philosophie devenue folle, le genre, l'animal, la mort. Votre nouvel essai ouvrage vient de paraître chez Grasset. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, à Mayan Escovic et Laura Dutèche pour La Grande Table des Idées, à la réalisation aujourd'hui Marie Placet avec Jacques Hubert. Merci aussi à Jeanne Copé et à Jordan Joseph pour leur aide précieuse. Rendez-vous demain pour une nouvelle Grande Table. D'ici là, très bel après-midi à tous.